Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, une campagne de sensibilisation au réemploi. Un reportage d'Antoine Blécon, bénévole, réalisé lors de la mobilisation de professionnels de la petite enfance en fin de semaine dernière. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, une interview de Malo Morvan, invité du prochain mardi de l'égalité à l'université Rennes 2. Et puis, recommandation, une exposition BD. Bienvenue dans L'Arène. Chaque jour, on débute l'émission d'information locale avec une info que je retiens pour vous parmi tout ce qui est relayé dans les médias locaux. Aujourd'hui, on parle de la campagne de sensibilisation portée par la région Bretagne sur le thème du réemploi. Nos objets ont de la ressource, donnons-leur une nouvelle vie. C'est le message qui est porté depuis le 16 octobre et jusqu'au 5 novembre. Car bien que les comportements des consommateurs évoluent, eh bien de nombreux objets du quotidien sont encore jetés alors qu'ils pourraient être réparés. D'autres sont conservés mais sans être utilisés alors qu'ils pourraient bénéficier d'une seconde vie. Le message c'est donc le suivant, réparer, réemployer, réutiliser et puis toujours penser à la seconde main plutôt que racheter du neuf. Cette campagne, elle est diffusée dans l'espace public et en ligne, portée donc par la région Bretagne, mais avec d'autres partenaires. On retrouve notamment l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou encore le RAB, le réseau breton des recycleries, que je ne connaissais pas. L'occasion de faire le point sur une nouvelle formation, celle de technicien valoriste du réemploi. Une session de formation a justement commencé sur le territoire rennais le 16 octobre dernier, jour de lancement de la campagne dont on est en train de parler. Un parcours certifiant de 4 mois, imaginé par le RAB donc, et la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, tout ça avec un financement de la région Bretagne. Allez, après cette info du jour, c'est le moment d'un reportage. Un reportage réalisé par Antoine Blécon, l'auteur du podcast La vie au grand air et puis bénévole pour Canal B. Jeudi 19 octobre, il a promené son micro à un rassemblement de professionnels de la petite enfance organisé dans toute la France à l'appel du collectif Pas de bébé à la consigne. À Rennes, elle et il aussi étaient nombreux et nombreuses devant l'hôtel de préfecture avec une revendication principale, une meilleure qualité dans l'accueil en crèche du jeune enfant. Le reportage, c'est maintenant.
Nous sommes le jeudi 19 octobre devant l'hôtel de la préfecture. Je suis en compagnie du collectif Pas de bébé à la consigne qui représente les professionnels de la petite enfance en crèche qui se mobilisent aujourd'hui à l'appel national du collectif.
Christine, auxiliaire de puériculture, donc du coup c'est un collectif qui a été créé en 2019 pour la défense de l'accueil du jeune enfant dans les établissements, que ce soit en crèche, au niveau des assistantes maternelles. Donc c'est un collectif qui regroupe des syndicats, des parents, des éducatrices de jeunes enfants, des assistantes maternelles. Et en fait, ça fait plusieurs fois que ce collectif appelle à la grève nationalement et s'est décliné aussi localement au niveau de grandes villes de France.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi vous manifestez aujourd'hui et quelles sont les revendications du collectif ?
Ce qui est de l'intersyndical, bah, nous ce qu'on souhaite c'est une amélioration des conditions de travail, une véritable reconnaissance des qualifications du métier de la petite enfance. Il y a eu aussi, le gouvernement a décidé en juillet de supprimer éventuellement une demande d'un service public de la petite enfance. Ce gouvernement-là a décidé de ne pas enclencher ce projet de mise en place du service petite enfance. Nous, on trouve ça vraiment dommage parce que c'est des enjeux importants, la petite enfance. La gestion des crèches actuellement, on s'aperçoit qu'on a l'impression que c'est une gestion comme dans les EHPAD. Il y a, le collègue de la CFDT disait qu'il y a de la rentabilité. Effectivement, bah, on s'aperçoit qu'il y a cette idée de rentabilité aussi qui s'instaure et qui s'installe aussi au niveau du service public. Et c'est pas la finalité, c'est pas le but du service public de faire de la rentabilité. C'est d'améliorer l'accueil des enfants. On sait très bien que bon, voilà, c'est important aussi de socialiser les enfants tout petits et puis d'accompagner les parents au mieux dans les premiers pas de vie de l'enfant. Je suis Laurent Quéron, je suis délégué CGT à la ville de Rennes du coup.
J'ai entendu parler du rapport IGAS et la commission des 1000 premiers jours. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est ce rapport et pourquoi il est important ?
En fait, le rapport IJAS, c'est un rapport qui est sorti là avant l'été et qui dénonce des faits de maltraitance dans des crèches plutôt privées suite à un décès dans une crèche l'été en 2022. Et donc, ils ont voulu voir la situation en France des crèches et ce rapport est sorti avant l'été et qui dénonce des faits graves. Aurélie, auxiliaire de puériculture et syndicat CFDT.
En fait, malheureusement, ce qui s'est passé dans les crèches privées et ce qui est dit haut et fort, c'est ce qui existe depuis longtemps, en fait, déjà sur le terrain, même dans la fonction publique. Et là, en tout cas, à Rennes et d'autres villes, on est clairement touchés jusqu'à en aller à geler des places d'accueil d'enfants parce qu'il n'y a pas le nombre de professionnels. Et voilà, là, ça empire, l'État entend sans entendre. Donc là, on essaye aussi de rajouter ça, qu'il y a vraiment des problèmes où on ne peut même plus faire un accueil. Un accueil qui est un droit qu'on devrait avoir, quoi. Donc du coup, bah, de qualité, même un accueil tout court, parce qu'on refuse des places maintenant, quoi. Donc c'est pas normal. La qualité de travail n'est pas là, l'attractivité n'est plus là. Les écoles d'auxiliaires, en soi, les promotions, elles sont pleines. Hein. Il n'y a pas un manque de personnes qui veulent faire ce métier-là, en tout cas pour auxiliaires de périculture, mais elles partent toutes dans d'autres services plus attractifs, malheureusement. Héloïse, auxiliaire de périculture et assistante administrative en crèche, syndicat CFDT.
Quand on nous fait la guerre, on reste des terres
pour la mettre au tapis.
Macron nous fait la guerre par sa réforme pourrie.
Réforme pourrie.
Et on reste des terres pour la mettre au tapis.
Mettre au tapis.
On est sur la prorogation immédiate de l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif au personnel autorisé à exercer dans les crèches, parce qu'ils ont ouvert aussi à divers statuts et ça met en cause aussi la qualification du personnel des crèches qui est quand même une qualification qui doit être reconnue à sa juste valeur. Et là, effectivement, le fait d'ouvrir à tout statut différent, ça pose souci et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de stabilité malheureusement dans les accueils de crèches au quotidien.
Pour la formation dans les crèches, en tout cas, il y a également des assistants de petite enfance, donc qui sont un peu l'équivalent des ATSEM dans les écoles auprès des institutrices, donc qui ont un CAP petite enfance qui se prépare en une année et qui ont donc les compétences d'accueil, de pédagogie autour de l'enfant, de son développement, des jeux qu'on peut lui offrir selon l'âge, les tranches d'âge, aussi la prise en charge de l'hygiène, des locaux dans lesquels les enfants vont évoluer. Et c'est un travail collectif avec les auxiliaires de puériculture qui, elles, vont avoir ce même travail d'encadrement des enfants, de prise en charge aussi de leur santé, des soins, la mise en place des traitements s'il y en a besoin. Et c'est aussi un collectif avec les éducatrices de jeunes enfants qui ont aussi... Donc on forme des équipes en fait pluridisciplinaires autour des enfants et on travaille vraiment en bonne intelligence et toutes sont importantes. Et donc chaque maillon est important pour faire tourner les crèches. Et le problème quand on intègre des personnes qui ne sont pas formées, c'est qu'en fait leur manque de formation, même si elles sont pleines de bonne volonté, on n'en doute pas, fait que nous on se retrouve à devoir les former sur le terrain en même temps qu'on travaille, donc elles apprennent sur le tas, enfin, on est obligé de nous prendre la responsabilité lorsqu'on va coucher un enfant, lorsqu'on va faire certains soins, on ne doit pas faire ça n'importe comment. Il y a la prise en charge aussi des familles, l'écoute auprès des familles, il y a des conseils qu'on peut donner aux familles sur l'alimentation, l'allaitement, sur les problèmes du quotidien, enfin, il y a énormément de choses, et les projets qu'on peut mettre en place, qu'on peut mener au niveau des crèches, donc tout ça est très important, et si ce sont des personnes qui sont amenées à venir comme ça ponctuellement sur les crèches, qui tournent, qui ne sont pas formées, bah, ça déséquilibre tout et en fait ça empêche le bon fonctionnement du travail de la crèche au quotidien. En fait.
Les bébés ne sont pas des sardines, pas de bébé à la consigne.
Les bébés
ne sont pas des sardines, pas de bébé à la consigne.
Les bébés ne sont pas des sardines, pas de bébé à la consigne.
À Rennes, on a 18 crèches municipales et à la rentrée, on a 70 places gelées par manque de personnel. Donc c'est un choix de l'élu. Ils auraient pu choisir justement d'embaucher du personnel non qualifié, mais ce n'est pas le choix qui a été fait et donc c'est quand même plutôt positif. Mais ça fait moi 20 ans que je suis à la ville de Rennes. Quand je vois qu'il y a 70 places gelées dans ma ville, ça m'inquiète quoi. Je me dis mon travail il se détricote quoi. Mmh. Voilà.
Ok, merci. Et il y a combien d'enfants dans les crèches à Rennes, enfin les crèches municipales j'entends.
Alors il y a des crèches avec 40 enfants, mais il n'y en a pas beaucoup et la majorité c'est 67.
Des grosses crèches quoi du coup. Ok, merci. Je suis juste curieux, qu'est-ce qu'il y a écrit sur votre
Alors j'ai une pancarte parents rejoignez le mouvement, pas de bébé à la consigne, parce que c'est un collectif on a besoin des parents en fait, parce que défendre nos conditions de travail c'est défendre les conditions d'accueil des enfants et ça se fait pas sans les parents voilà.
Les parents, ils vous soutiennent? Vous avez le sentiment que les parents vous soutiennent dans votre lutte? Ils comprennent la grève et...
Oui, les parents. Alors, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on est tenu un devoir de réserve, donc on peut pas tellement parler aux parents de ça. Mais bien sûr que les parents sont partie prenante. Ils sont. Quand on arrive à l'évoquer, oui, ils sont avec nous.
Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose?
Par rapport à l'accueil et les parents, en fait, les parents se rendent bien compte que la situation d'accueil se dégrade. Donc, c'est pour leur bien, leur enfant aussi. Il faut aller dans le même sens, en fait, pas être les uns contre les autres. Mais les parents se rendent bien compte que ça va pas et que quand ça va mieux, ils savent le dire aussi et que tout le monde est plus serein en fait, de laisser son enfant dans un climat serein et l'enfant est mieux aussi. En fait, c'est un combo gagnant.
Ok, merci beaucoup.
Si je peux me permettre, c'est un combat que les parents devraient mener parce qu'avant tout, ils sont aussi électeurs. C'est des volontés politiques tout ça, donc c'est important aussi que les parents s'en rappellent au moment de voter, dans leur mairie, aux élections, etc., de voter aussi pour des personnes qui ont à cœur de valoriser justement la petite enfance et de proposer des projets qui sont dans le sens d'améliorer les conditions d'accueil pour leurs enfants. Donc c'est pour ça aussi, comme on sait que derrière c'est des volontés politiques, il faut que les gens prennent ce problème à bras le corps, quoi.
Je ne sais pas, on recrute.
On recrute auxiliaires, direction, on a besoin. On est chez nous, c'est génial. Il y a une bonne ambiance.
Oh,
Dead Turn par Beyrouth sur Canal B. C'est une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur, et qui fait partie d'un nouvel album, Hate Soul, qui est attendu pour le 10 novembre. C'est un disque qui sort sur le label du leader Zach Condon, Pompeii Records, c'est le nom du label. Un 12 titres qui arrive à peu près 5 ans après le dernier album de Beyrouth et des problèmes de gorge persistants qui ont forcé Zach à annuler une partie de sa tournée en 2019. Vous êtes en train d'écouter La Reine, l'émission d'info locale de Canal B, sans doute branchée sur le 94.0, mais vous pouvez aussi nous écouter en ligne sur canalb.fr, un site où vous retrouverez d'ailleurs l'ensemble des émissions réalisées par les salariés, mais aussi par les bénévoles. On continue cette émission avec une interview. Bonjour Malo Morvan.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes maître de conférence en sciences du langage à l'université de Tours, agrégé de philosophie et puis l'invité du prochain mardi de l'égalité de l'université Rennes 2. Ça se passe au Tambour, mardi 24 octobre à partir de 18h pour une discussion sur la façon dont on classe les manières de parler et les gens. C'est le report en fait d'une conférence qui devait avoir lieu au printemps mais qui a été décalée en raison du mouvement social qui avait lieu à ce moment-là en lien avec la réforme des retraites. Alors vous, en 2017, vous avez soutenu une thèse en sociolinguistique sur ce sujet du classement des manières de parler, mais plus précisément dans la langue bretonne.
Oui, ben en gros, ce qui m'a intéressé, c'était d'observer d'un point de vue historique quels ont été les conflits pour définir la norme du bon breton. C'est-à-dire que pendant longtemps, le breton a essentiellement été une pratique orale assez variable selon les localités pratiquées dans le quotidien et les nécessités de militer pour le breton pour essayer de le sauver ont amené à le codifier, c'est-à-dire à essayer de définir une forme qui serait officielle, partagée, qui servirait dans les manuels, dans l'affichage public, etc. Et donc, il a fallu se demander quelle forme allait être celle qui serait justement celle présentée officiellement parmi toutes celles qui existaient. Et donc il y a eu des conflits assez forts là-dessus, d'une part par rapport à la diversité dialectale, est-ce qu'on prenait la forme de telle ou telle région, mais aussi par rapport à des pratiques sociales de la langue entre des personnes qui parlaient le breton quotidiennement à l'oral, à la maison, et qui, par exemple, n'avaient pas de difficulté à rajouter des mots français dans leurs phrases, et des personnes qui l'ont appris dans un cadre plus scolaire et qui avaient une plus grande réticence envers des mots qui ressemblent à du français. Et donc, j'ai voulu m'intéresser aux enjeux politiques, idéologiques, identitaires derrière ces controverses.
Et cette recherche donc de normes dans la langue bretonne, ça vient un peu en contradiction avec un milieu quand même qui promeut la diversité des manières de parler, on peut le dire ?
D'une certaine manière, on est un peu enfermé dans un paradoxe qui est que si on veut répondre à des attentes institutionnelles, par exemple pour la scolarisation, etc., il semble qu'il faille mettre en avant une forme qui serait la forme classique, valorisée, etc. Et les militants bretons, par exemple, du début du XXe siècle, ont pas mal essayé de reprendre ce jeu de on va montrer que la langue bretonne est digne d'avoir, par exemple, une littérature, une terminologie scientifique, etc., qu'elle se situe dans le même cadre de valorisation que la langue française. Et après, vous avez un certain nombre d'autres chercheurs, chercheuses, par exemple à Brest, qui ont un peu contesté cette manière de faire en disant « oui, mais ça laisse de côté par exemple les personnes qui parlent au quotidien sans véritablement être dans la recherche de grande littérature ou de terminologie scientifique ». Et donc, il y a eu des débats sur quel public était représenté par cette tentative de mettre une norme. Mais oui, on est un peu pris dans un jeu d'injonction.
Là, on a parlé de votre sujet de thèse qui a été soutenu en 2017. Comment est-ce qu'elle s'est construite, votre spécialisation sur ce sujet des normes dans le langage ?
En ce qui concerne le breton, pour commencer, moi j'étais dans les écoles Diwan, et donc j'ai beaucoup vécu dans le milieu militant où on nous disait justement ça c'est du bon breton, ça c'est du mauvais breton, je voyais qu'il y avait des visions un peu différentes. Ensuite j'étais justement à Rennes 2, j'ai suivi des cours de sociolinguistique, où là j'ai vu un certain nombre de choses qui ont remis en question mes certitudes, mes évidences, notamment l'idée défendue par les sociolinguistes que la notion de langue manque de précision, Et donc, ça m'a créé un espèce de dilemme qui est, je suis d'accord avec les idées que la notion de langue manque de précision, dans ce cas-là, pourquoi on milite exactement quand on milite, par exemple, pour une langue régionale? Et comment reformuler l'objet du militantisme si on accepte d'abandonner la notion de langue? C'est ça qui cette perplexité de départ qui a fait que j'ai voulu revenir vers les discours militants pour les réanalyser, et plus largement aujourd'hui, j'essaie de m'intéresser, oui, aux discours par lesquels un certain public va édicter une norme en disant la bonne manière de parler, y compris pour le français, c'est ça, et telle autre forme est incorrecte, et comment ça se diffuse, comment c'est accepté ou refusé, etc., etc.
Et vous avez notamment donc élargi la réflexion au-delà de la langue bretonne avec cet ouvrage qui est paru en 2022 aux éditions du Commun. Son titre, Classer nos manières de parler, classer les gens. Comment est-ce qu'on peut décrire aujourd'hui la langue dominante, qui est en tout cas perçue comme le modèle de référence, qui est la langue enseignée à l'école, c'est celle-ci?
Oui, alors ça va dépendre des langues, mais si on parle du français, effectivement, on constate qu'il y a un français promu par les institutions scolaires, etc., etc., par exemple, dans lequel on va faire le nœud de négation, qui peut parfois être assez éloigné du français quotidien qu'on parle tous les jours. Et donc, après, ce qui peut être intéressant, c'est d'observer qui édicte cette norme du bon français et qu'est-ce qui fait que les gens adhèrent à cette idée que parmi la pluralité des manières de parler existantes, on va choisir celle-là comme on va l'ériger en forme supérieure et on va considérer que les autres sont inférieurs et autres, sachant que d'un point de vue linguistique, en fait, on peut pas vraiment établir qu'il y aurait une forme qui serait en soi supérieure ou inférieure à une autre. Ça dépend des catégorisations et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment elles se diffusent.
C'est pour ça que vous estimez que ces catégories, elles sont floues et mal définies. C'est que donc les catégories langue, dialecte, argot, on n'est jamais tout à fait dans l'un, tout à fait dans l'autre. C'est pour ça?
Ben oui, disons que c'est ce qu'on observe en linguistique. C'est que, par exemple, si vous prenez différentes manières de parler qui ont entre elles un certain degré d'écart et un certain degré de proximité, et qu'on se demande, tiens, est-ce qu'il faut les classer comme étant des langues différentes ou des dialectes d'une même langue? Disons, ce ne sont pas des observations linguistiques, par exemple, mesurer des taux d'écart entre le nombre de mots utilisés ou autres, qui vont permettre de justifier ces classements-là, puisque vous avez parfois des écarts très grands à l'intérieur d'une même langue et des manières de parler classées comme langues différentes entre lesquelles il peut y avoir pas mal de proximité. Donc en fait, les raisons pour lesquelles on va dire ça ce sont deux dialectes d'une même langue ou ça ce sont deux langues différentes ou ce genre de choses, en fait ça va renvoyer à des identifications de manières de parler, mais plus largement de groupes de personnes qui vont avec. Et pour savoir pourquoi est-ce qu'une manière de parler est classée spécifiquement comme une langue ou comme un dialecte, en fait il faut plutôt aller chercher du côté de l'histoire politique, géopolitique, des populations, la manière dont les groupes se définissent, et pas du côté des propriétés linguistiques elles-mêmes.
Et quand on reprend la catégorie de l'argot, certains mots qui sont considérés comme de l'argot finissent par rentrer dans la langue et notamment dans les dictionnaires, donc c'est le moment de redire que la langue est mouvante et bouge en permanence.
Oui, bah après, effectivement, il y a cette difficulté-là qui est que pour représenter la langue, par exemple, dans une grammaire, un dictionnaire ou autre, on doit en ériger une forme fixe qui va durer pendant un certain temps. Or, entre-temps, les manières de parler vont évoluer spontanément assez vite. Dans les pratiques orales, il y a une certaine inventivité, créativité, qui est variable selon les contextes de parole et les milieux sociaux, etc., mais qui est omniprésente malgré tout. Et donc, on va observer assez rapidement un décalage entre la manière de parler qui a été codifiée et celle qui évolue spontanément. Et la question qui se pose, du coup, c'est quelle place on donne à ces créations nouvelles? Est-ce qu'on dit juste, la norme n'a pas évolué assez vite pour s'adapter aux nouveaux usages? Ou est-ce qu'on dit, non, la norme, c'est la norme, ces nouveaux usages, ils sont incorrects, ils sont fautifs, etc., etc. Et par exemple, là, il y a des débats en ce moment au sujet de l'écriture inclusive. Et effectivement, l'Académie française en reste à certaines conceptions de la norme qui se trouvent un peu dépassées par des pratiques qui vont plus vite. D'où ce décalage et ce conflit pour éditer les bonnes pratiques à ce sujet.
donc langue inclusive, pour donner un exemple avec le pronom YEL qui est quand même rentré en tout cas dans certains milieux militants, associatifs, qui est devenu assez courant mais qui n'est pas encore rentré dans le dictionnaire. Le fait d'avoir des cases là, comme on vient de le dire, d'avoir une norme sur ce que c'est le bon, le bien parlé, ça a pour conséquence de catégoriser les groupes de locuteurs. Quelles sont les populations aujourd'hui mises à l'écart parce qu'elles ne s'expriment pas selon les normes qui sont édictées à l'école? On pense notamment aux jeunes, catégorie assez floue, peut-être aussi aux locuteurs avec des accents ou parlant des langues régionales voire étrangères.
Oui, ben en fait, bon, c'est délicat de faire une adéquation simple entre une manière de parler et une population, sachant que la plupart du temps, vous et moi, on dispose de une pluralité de répertoires et on va mobiliser un certain répertoire dans une situation. Donc effectivement, par exemple, on peut tout à fait mobiliser un parler qui sera classé comme argotique ou autre dans un cadre et dans un autre cadre, parler d'une autre manière. Donc il n'y a pas une adéquation stricte, mais effectivement, il y a certaines manières de parler qui peuvent, par exemple, susciter... je ne sais pas moi, de la discrimination à l'embauche ou autre, et vous avez aussi parfois des choses qui sont un peu plus insidieuses. Par exemple, ce qu'on va appeler accent du Sud, on va pouvoir dire « Ah tiens, c'est joli, c'est chantant, c'est sympathique », mais du coup, effectivement, peut-être qu'on va accorder moins de crédibilité aux arguments d'une personne qui s'exprime avec cet argument, parce qu'on va le ranger dans la petite catégorie pittoresque de l'accent du Sud bien sympathique, et donc ça va pas être un discours ouvertement hostile, mais ça va quand même produire des effets dans la crédibilité qu'on accorde ou non aux propos. Donc effectivement, plutôt que d'établir une liste fixe de telle population, ce qui m'intéresse, c'est de proposer une vigilance pour qu'on regarde ses propres pratiques au quotidien, y compris sur des cas qui peuvent être imprévus à la base.
Une fois qu'on a fait ces constats, à quoi ça sert finalement un tel travail de recherche comme celui que vous menez, Malo Morvan? Vous parlez d'un travail de vigilance, est-ce que c'est à ça que servent ces constats? Aujourd'hui, la tendance, j'ai l'impression, elle serait plutôt à uniformiser nos façons de parler à travers des concours d'éloquence. Je vois aussi des ateliers de prise de parole qui sont mis en place, notamment à Rennes et ailleurs. Donc plutôt une tendance à uniformiser qu'à remettre en question toutes ces cases qu'on a évoquées.
En fait, on peut tout à fait avoir, par exemple, des ateliers d'encouragement à la prise de parole qui soient pas nécessairement dans une optique normative, mais qui vont juste inciter les gens à parler avec confiance, etc., etc. Donc, il s'agit pas non plus de dire que ces ateliers de prise de parole ils seraient illégitimes ou inintéressants, mais effectivement, on voit qu'il y a des discours médiatiques, publics, politiques, etc., qui vont dénigrer certaines manières de parler. Et ce qu'on constate en tant que linguiste, c'est qu'en fait, les manières de parler dénigrées ne peuvent pas, être considérées comme inférieures en raison de propriétés linguistiques quelconques. Et donc, en fait, c'est un jugement social qui est derrière ce positionnement. Et donc, il faut le nommer en tant que tel pour éviter de cacher sous le prétexte du linguistique des processus de catégorisation des gens qui sont plus larges, qui sont autres. Et donc, du coup, c'est de nommer un chat un chat. Et donc, effectivement, ça peut avoir des effets. Par exemple, là, auprès du public auprès de qui j'enseigne, il y a pas mal de personnes qui se destinent à l'enseignement. Et vous pouvez avoir des enseignants-enseignantes qui vont dire à des apprenants-apprenantes « Tu parles mal, ta manière de parler est incorrecte, elle est fautive », ce qui peut produire après des phénomènes d'autodévalorisation, de censure, de découragement, de défiance, etc. Et effectivement, l'idée, c'est de se demander comment on pourrait le dire autrement. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple... parmi la pluralité des répertoires langagiers dont tu disposes, il y en a certains qui sont plus ou moins adaptés à un contexte scolaire, administratif, et donc il faut adapter en fonction du contexte attendu. Et qu'est-ce que ça change de le dire en ces termes plutôt que, comme je l'ai dit juste avant, et donc c'est ces choses-là qui vont nous intéresser.
Donc éviter d'ériger un modèle de langue comme absolu, mais en même temps expliquer ces grilles, ces cases qu'on a évoquées et le fait qu'on peut jouer avec différents registres de langue, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis effectivement, l'idée, c'est que ces normes du bien-parler, finalement, sont des produits historiques sociaux dont on peut étudier un peu comment c'est apparu, à quelle époque, qu'est-ce qu'il y avait comme jeu d'intérêt derrière, qui sont les personnes qui les ont édictées, avec quel profil social, comment est-ce que ça se diffuse ou ça se diffuse pas, parfois c'est contesté, parfois, etc., etc. Et donc, c'est plutôt en faire un objet d'étude plutôt que les révérer comme des textes sacrés. Et donc, c'est ça qui m'intéresse.
Tous ces sujets, ils seront évoqués mardi 24 octobre à partir de 18h lors d'un mardi de l'égalité en votre compagnie qui se déroule au Tambour sur le campus de l'Université Rennes 2. Et pour cet échange, vous vous appuierez sur un fonds d'archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, c'est une collaboration avec l'INA, donc ils m'ont donné accès à un fonds d'archives, et donc j'ai pu chercher quelques petits extraits de journaux télévisés dans lesquels ces catégories sont à l'œuvre, et ce qui nous intéressera, ce sera de décortiquer un discours commun, hein, puisque c'est un discours de journal télévisé, pour voir qu'est-ce qu'il y a comme implicite, présupposé, évidence derrière, comme approximation là-dedans, qu'est-ce que ça produit socialement de classer les manières de parler comme ceci ou comme cela. Et l'idée, c'est effectivement de faire quasiment des exercices par rapport à des discours qu'on serait susceptible de tenir soi-même et de les analyser.
Classer les manières de parler, classer les gens, ce sera le sujet du mardi de l'égalité du 24 octobre en votre compagnie, Malo Morvan. Je vous représente, vous êtes maître de conférence en sciences du langage à l'Université de Tours, également agrégé de philosophie et auteur de cet ouvrage là qu'on a évoqué qui est sorti en 2022 aux éditions du Commun, maison d'édition rennaise. Et on vous retrouvera donc demain au Tambour à partir de 18h pour une discussion qui durera 1h30. C'est gratuit mais sur réservation. Pour réserver sa place, ça se passe sur le site culture.service.unif-rennes2.fr et la conférence sera ensuite en ligne sur le site lerdu.fr. Merci beaucoup.
Merci à vous.
La vie, c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage. Ou ailleurs. Tu dis c'est pas mon destin, ou bien tu dis c'est dommage, et tu pleures. On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Et si je te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Pour des histoires que j'aime bien, j'ai parfois pris du retard, mais c'est rien. J'irai jusqu'au bout du chemin, et quand ce sera la nuit noire, je serai bien. Faut pas que tu penses à demain, faut pas dormir au hasard, et tu tiens. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage, un matin. Et je regarde ceux qui saluent aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimerait peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Même si je te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Et je regarde ceux qui s'endorment aux fenêtres. Je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'oublient peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. On vous dira sans doute que mon histoire est bizarre. Je sais mais je peux pas m'arrêter vu qu'il y a plus de nom sur les gares. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Je me sens toujours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul.
Oh, je cours tout seul par Albin de la Simone. C'est un morceau que j'ai choisi pour vous, c'est cadeau. La dernière sortie d'Albin de la Simone que j'aime beaucoup, et c'est une reprise de William Scheller qu'on retrouvera sur un album de reprise enregistré par différents artistes qui s'apprête à sortir, je crois. Et Albin de la Simone, il a lui sorti son propre album au mois de mars, Les 100 prochaines années. C'est son 7e disque et il sera sur scène pour le présenter le 9 novembre à Nantes et le 5 décembre au TNB, le Théâtre National de Bretagne. La Reine, l'émission d'info locale de Canal B se poursuit tranquillement. Je le dis, auditeurs, si vous avez une action ou un événement à annoncer sur les ondes de Canal B, qu'il s'agisse d'un événement organisé avec votre association ou autre type de structure, eh bien, vous pouvez m'en faire part par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et ensuite, on peut prévoir une interview ici en studio, un reportage sur le terrain ou pourquoi pas une recommandation. Et tiens, c'est l'heure. Car chaque jour avant de vous laisser, c'est le moment pour la recommandation du jour, des conseils de choses à voir, à lire, à écouter ou à vivre. Là, j'ai repéré une exposition qui commence mardi 24 octobre, direction l'Antipode, dans le quartier Clonel à Courrouze, ici à Rennes. Ma vie posthume, c'est le nom de l'expo et puis surtout d'une bande dessinée en deux tomes, d'Hubert et Zanzime, le deuxième est rennais, un duo primé pour sa bande dessinée Podum, publiée en 2020. 2020, c'est l'année du décès d'Hubert, moitié de ce duo, qui est donc mis en lumière à partir de cette semaine à l'Antipode, à travers sa bande dessinée Ma vie posthume, sortie en 2012 et 2013, à chaque fois chez Glénat. Une comédie morbide et grinçante qui recèle paradoxalement une bonne dose d'optimisme. Des planches originales sont donc à découvrir du 24 octobre jusqu'au 25 novembre aux horaires d'ouverture de l'Antipode. Plus d'infos sur le site antipode-rennes.fr, et puis un temps de vernissage est prévu le jeudi 2 novembre à partir de 19h en présence de Zanzime. La Reine, c'est terminé. Une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour pourquoi pas s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.